Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 22 février 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, tout va bien. Alors merci de nous rejoindre sur nos ondes, sur ces ondes favorites. Alors une émission proposée au fil des pages, une émission proposée par des passionnés du livre et de la lecture. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, par téléphone comme d'hab, Francis et nos trois invités, Michel Puzla pour nous présenter une exposition sur le 11e arrondissement, et puis une exposition dans la rue, et Daniel Guerrier des éditions Spartacus, et Christian Mailleux des éditions Sileps. Donc de 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et puis, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le net, vous connecter sur le site de Radio Libertaire, soit en direct, soit en podcast. Alors en février, que fait-on? On lit et on lutte. Alors, avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons une annonce?
Bien sûr, nous avons une annonce. La causerie populaire libertaire, qui aura lieu ce dimanche, 26 février, excusez-moi. En ces temps de lutte sociale, le thème de cette causerie, ce sera la casse des services publics, hôpitaux, écoles, transports, et aussi, nous pourrons parler de la réforme des retraites. Nous vous donnons rendez-vous. Là, j'ai une incertitude sur l'heure. Je dirais 14h30. Oui. Je vous dirais 14h30. Donc, cela aura lieu à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, le métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. Voilà, je te redonne l'antenne, Francis.
Merci. Alors, vous nous écoutez, c'est très bien. Vous pouvez aussi nous écrire. Notre adresse postale, c'est émission au fil des pages, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, au programme de cette émission, tout d'abord, pour alimenter le débat, un livre collectif, un catalogue sur une exposition qui s'appelait, et le livre existe toujours, Parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes. Ensuite, une rencontre avec Michel Puzla pour une exposition Mémoire du quartier Popincourt, il nous parlera de tout cela. Et puis, je présenterai un livre de Natacha Martin, à l'Est des rêves. Vous la connaissez, cette dame. Elle avait eu l'occasion de faire une rencontre un peu terrible avec un ours qui lui avait arraché une partie de la mâchoire. Et là, elle présente un livre sur sur un peuple qui va peut-être pouvoir se ressourcer. Ensuite, nous aurons Daniel Guerrier, donc des anciennes éditions Spartacus, et Christian Mailleux. Nous aurons cet échange par téléphone. Puis, dans la série La beauté de l'art, Michel Vlasikoff, Jacquenot, graphiste et typographe, c'est Agnès qui va nous le présenter. Dominique nous rejoindra pour le son des mots avec Christine de Pisan, Sans balade d'amant et de dame. Et puis un livre d'une dénommée Lorraine Groff. Le livre s'appelle Matrix. Alors on verra ce que signifie ce Matrix. Et peut-être quelques surprises si nous avons le temps. Alors, pour ouvrir le débat, Paris Révolution, Paris Militante. Oui, le musée de Carnavalet nous a proposé une exposition parisienne, citoyenne, et nous l'avions vue avec Marie. Il en reste un catalogue d'une grande richesse, notamment iconographique. Alors, Marie, qu'en est-il de cet ouvrage? Comment peut-on le présenter?
Oui, alors je rappelle que ce catalogue est un vaste Condensé hein, de l'exposition donc parisienne citoyenne engagement pour l'émancipation des femmes de 1789 aux années 2000. Donc c'est une exposition qui a eu lieu du 28 septembre 2022 au 29 janvier hein, donc elle est désormais clôturée, mais donc justement hein, ce catalogue est on ne peut plus inviter à aller la voir, mais c'est un bon compte rendu justement les femmes en fait ont vraiment bien participé à l'abolition de la monarchie sous l'Ancien Régime, hein, de la poissarde de sans le sou à l'aristocrate des salons parisiens, la Révolution française bien sûr, hein, donc c'est à partir de 1789 hein, que commence l'exposition. Donc tout ce qui en découle, hein, en 1791, la rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges, hein, qui est d'ailleurs dédicacée à la reine. Il est vrai que cette période révolutionnaire, hein, les femmes ont obtenu davantage de liberté et d'autonomie dans le cadre familial, avec entre autres le droit du divorce par consentement mutuel, mais sont toujours laissées en marge de la vie publique et politique, car la répression les guette, hein, notamment sous la Convention, même le Directoire. Olympe de Gouges en fera malheureusement les frais d'ailleurs avec sa condamnation à mort en 1793 pour troubles répétés à l'ordre public. En matière d'éducation, les Parisiennes assistent aux prémices de sa démocratisation qui est lente et fragile, mais permet cependant à certaines filles des milieux plutôt aisés de pouvoir s'alphabétiser. Hein. Et l'avènement de Napoléon Ier en 1804 a vite rétabli le système patriarcal en place sous l'Ancien Régime. Et donc, au XIXe siècle, donc, qui est marqué par les révolutions, hein, 1830, 1848, 1871 bien sûr, donc tout ce XIXe siècle révolutionnaire démontre bien justement le rôle majeur qu'ont joué les femmes hein, dans ces périodes d'extrême tension entre le pouvoir et le peuple. En 1830, elles étaient présentes sur les barricades, hein, fusil en main pour certaines, et puis militantes saint-simoniennes contre l'exclusion et pour l'émancipation dans les milieux les plus aisés, avec l'exemple par exemple de Flora Tristan, qui est pionnière dans la lutte contre les violences conjugales et les féminicides, ainsi que dans l'essor du féminisme. En 1848, une progression hein, avec les fameux mouvements des 48 arts, incarnés entre autres par l'ouvrière Jeanne Desroing, qui se présente aux élections législatives du 10 décembre 1848. Et sous le Second Empire, à l'aube de la Commune, de nombreuses femmes s'illustrent déjà pour leur combat contre la précarité qui sévit à Paris et qui condamne de nombreuses femmes à toujours plus de misère. Hein. Victorine Brochet, Nathalie Lemel créent des coopératives d'ailleurs pour les plus pauvres. Paul Minck, la Société fraternelle de l'ouvrière, qui revendique activement d'ailleurs l'égalité salariale. Pendant le siège de Paris, qui débute donc en 1870, donc en septembre 1870, les Parisiennes sont envoyées au charbon hein, pour remplacer les hommes partis combattre la Prusse. Elles seront particulièrement nombreuses au début du mois de mars 1871 à vouloir se rendre à Versailles, comme leurs ancêtres l'ont fait en 1789, pour protester contre le gouvernement de Thiers cette fois-ci. Donc parmi elles, on retrouve Louise Michel, Nathalie Lemel, Elisabeth Dmitrieff, André Léo. Donc ces dernières revendiquent pleinement le droit de défendre Paris, hein, notamment par le biais de l'Union des femmes pour la défense de Paris, constituée le 11 avril 1871. Donc la Commune de Paris, hein, comme le démontre bien hein, l'exposition, a représenté pour les Parisiennes un moment particulièrement fédérateur hein, en ce qui concerne l'émancipation féminine, et démontre justement hein, que les femmes étaient parfaitement capables de s'organiser dans le travail hein, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre masculine et également pour organiser la résistance face aux Prussiens et aux Versaillais. Ce qui leur a valu d'ailleurs un traitement répressif tout aussi important que celui infligé aux hommes. Hein. Ça, c'est. Enfin, les femmes, je veux dire, n'étaient pas, bien sûr, épargnées hein, de toute cette répression qui a eu lieu pendant la Semaine sanglante et même après. Et sous la Troisième République, les revendications en faveur du droit du vote féminin s'intensifient avec l'avènement des suffragettes. Hein. La figure de proue en est d'ailleurs Hubertine Auclert. Hein. Donc, toutes ces féministes militent activement hein, sur la scène politique et dans les milieux culturels. En parallèle, les lois Ferry de 1881 et 82 permettent l'accès à l'éducation gratuite, laïque et obligatoire pour toutes les filles jusqu'à l'âge de 13 ans. Les milieux artistiques se féminisent également, et donc des femmes telles que Rosa Bonheur, Hélène Berthaud ou Camille Claudel s'en distinguent hein, dans ces milieux artistiques. Il en est de même dans les milieux littéraires, scientifiques et sportifs, hein, si bien qu'au début du XXe siècle, l'image de la femme nouvelle s'implante dans la capitale, hein, aux grandes dames des misogynes. Et le 1er décembre 1900, une loi qui autorise les femmes à devenir avocates, Jeanne Chauvin devient ainsi la première Française à pouvoir plaider au barreau de Paris. Un tournant hein, dans l'histoire du féminisme français. Et le mouvement suffragiste donc, prend progressivement de l'ampleur avant 1914 avec la création de fédérations féminines comme l'Union française pour le suffrage des femmes fondée par Jeanne Schmal en 1909. Donc avec le conflit hein, de la Première Guerre mondiale, les femmes reprennent hein, des rôles déterminants hein, qu'elles avaient eus d'ailleurs en 1870 et 71, hein, elles ne sont plus derrière les barricades, mais elles sont munitionnettes, puis midinettes, vers la fin du conflit, revendiquant l'arrêt des combats et le retour des soldats partis au front. Dans l'entre-deux-guerres, la société parisienne assiste à une montée en puissance hein, des revendications du suffrage féminin. En 1939-45, ce ne seront plus des revendications pour le suffrage, hein, mais elles sont très très présentes au sein de la résistance, hein, bien évidemment. Et donc, progressivement, donc, le droit de vote, hein, bien sûr, en 1945. Et puis après, tous les mouvements, bien sûr, des 68 ardes. Hein. Donc, la création du MLF en 1970. Et puis, donc, les lois Veil pour l'avortement. Donc, c'est vraiment un traître. Cette exposition, elle résume bien tout ça.
Le catalogue est, est une présentation de l'ensemble de ces mouvements.
Tout à fait, voilà.
Avec
c'est vraiment
une belle iconographie.
Voilà, tout à fait. Une très belle iconographie. Beaucoup de tableaux, beaucoup d'archives, hein, bien sûr. Donc, vraiment, c'était un bon condensé, hein, tout ça. Hein,
on y a trouvé, et on y trouve encore dans le livre, très beau portrait de Séverine.
Oui.
On y retrouve
Louise Michel,
on y retrouve quantité. Et puis, une affiche histoire d'A. Ah, comme avortement, qu'on va projeter, je crois, le début mars, c'est qu'on va projeter début mars à Publico, et c'est intéressant parce que c'était vraiment un film historique. Le combat était difficile.
Je dirais l'issue donc, de cette exposition, elle ne va pas jusqu'au mouvement MeToo de 2015, mais elle s'arrête quand même donc à des points un peu majeurs hein, aujourd'hui. Hein, la parité, par exemple, nous avons les revendications pour la parité dans le métro, notamment, davantage de noms de stations féminins. Bien sûr, hein, toutes les luttes contre les féminicides, hein, avec notamment, on avait vu les collages, les fameux collages anti-féminicides. Ça s'arrête à peu près à ce...
Alors, ce livre, il est le titre, l'éditeur...
Donc, le titre de l'exposition, hein, bien sûr, hein, Parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes, 2789... aux années 2000, donc c'est Paris Musée, Musée Carnavalet, Histoire de Paris. Ouais,
c'est les éditions Paris Musée, d'autres catalogues, donc comme on avait eu d'ailleurs l'exposition Frida Kahlo. Hein,
tout à fait. Hein,
voilà. Oui. Alors, restons à Paris, Michel, nous allons parler d'une autre exposition dans la rue, celle-là, sur les grilles du square Francis Lemarque. Alors, tu es président d'une association consacrée à l'histoire du 11e, Michel, que se passe-t-il ?
Alors, ce sont deux associations différentes. Je suis président d'une nouvelle association qui est née à l'automne, qui s'appelle Histoire et mémoire du 11e arrondissement. Mais j'appartenais bien avant à une autre association dans mon quartier qui s'appelle l'ASQP, Agir solidairement pour le quartier Popincourt. Et c'est dans le cadre de cette association, l'ASQP, qu'a été organisée l'exposition, qui a été conçue, bâtie, l'exposition donc, qui est présentée en ce moment, rue de la Roquette.
Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment a-t-elle été conçue, cette expo?
Alors, elle était conçue, l'idée est partie de notre secrétaire général, Delphine Goater, qui dit on pourrait faire quelque chose sur les mémoires du quartier. Donc, on s'est réunis un peu, on a lancé des idées, et puis on a fait appel... On a fait appel à deux prestataires hein, qui elles-mêmes ont une association qui s'appelle Past Not Past qui est spécialisée dans la recherche documentaire et le commissariat d'exposition. Et donc moi j'y ai participé sur mes créneaux, c'est-à-dire la commune et un peu quelques autres. Et puis alors on a eu un problème, c'est que cette expo elle était prête à être présentée au printemps 2020. Elle devait être présentée à la Maison des Métallos, sauf que confinement. Et nouveau confinement. Et finalement, on l'a déjà présenté une première fois dans la rue l'année dernière, il y a deux ans, en 21, mais sans la partie audio que nous avons présentée à la mairie du 11e, là, le jour de l'inauguration, puisque des témoignages oraux donc, ont été enregistrés pour faire un film documentaire donc, sur ce cas. Alors, pourquoi ce projet? C'est que le quartier Popincourt, et vraiment un quartier très ouvrier. C'était avec l'ensemble du Faubourg Saint-Antoine. C'est une partie du Faubourg Saint-Antoine, hein, le quartier Popincourt, un quadrilatère en gros entre la rue de Charonne, la rue du Chemin Vert, le boulevard Voltaire et le boulevard Richard Lenoir. Hein, ce quartier était le plus ouvrier, le quartier industriel le plus important de Paris au 18e et encore dans la première moitié du 19e siècle. Hein, avec tout un tas d'activités. Alors, un peu le bois, mais là, le bois, c'est plutôt le cœur du Faubourg Saint-Antoine. Oui. Mais il y a des métiers annexes hein, de l'ébénisterie, qui c'était des métiers de décoration sur bois, par exemple, dans le quartier. Mais alors, c'était le quartier de la petite métallurgie, les chaudronniers auvergnats, hein, qui sont venus dès le 18e siècle, tout autour de Bastille, dans les petites rues, la rue de Lappe, rue des Taillandiers, comme leur nom l'indique. Oui. Et puis l'autre activité importante, c'était la faïencerie. Il y avait des faïenceries industrielles. Hein, on a encore dans les gravures hein, de faïenceries qui ont été démolies pour rénover le quartier. On y fabriquait alors des objets en faïence, un peu de porcelaine faïence, mais également, vous savez, les gros poêles en faïence. Hein, là, dans un bâtiment tout à fait à côté de l'exposition, hein, malheureusement, il n'est pas accessible. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois dans un sous-sol appartenant à Paris Habitat. Il y a encore quelques-uns de ces fours. Il y a même une exposition, mais qui est réservée au personnel de Paris Habitat. Hein. Bon, c'est... Et donc, c'était. Et alors, avec une concentration de population, c'est un quartier qui est devenu très dense assez rapidement. Il y avait quelques centaines d'habitants au milieu du 17e et à la fin du 17e, au début du 18e, ça, tout le quartier de la Bastille, c'est 30 000 habitants. En l'espace d'un demi-siècle, 30 000 habitants sont venus s'installer ici. Donc, voilà un peu. Alors, ces habitants sont venus évidemment par immigration, ça c'est l'autre aspect intéressant du quartier. C'est un quartier, mais comme Paris en général, mais c'était un peu une des portes d'entrée de l'immigration à Paris. Donc, pour quelle raison? Alors là, c'est une raison très précise. En 1657, Louis XIV, enfin, c'est pas lui, il était tout petit encore à l'époque, c'est le régent ou la régente, accorde la liberté du travail aux artisans qui viendraient s'installer dans le Faubourg Saint-Antoine. Ça veut dire qu'ils sont exonérés d'appartenir aux corporations. Ils peuvent s'établir librement et travailler librement. Et donc, ça va attirer, c'est un faubourg privilégié, ça va attirer très vite toute une population venant d'abord des environs, hein, les premiers qui viennent, c'est les Normands, les Picards, et puis les Auvergnats. Les Auvergnats, on disait parfois, c'est la gare de Lyon qui les amenait, pas du tout. Ils sont là trois quarts de siècle avant la gare de Lyon, les Auvergnats. Hein. En 1789, le quartier, c'était le ghetto auvergnat, comme l'avait appelé un écrivain, c'était le ghetto auvergnat. Donc on a les Auvergnats, les Alsaciens lorrains, eux, c'est pas complètement dans ce quartier, c'est à côté, dans le Faubourg Saint-Antoine, ce sont des ébénistes réputés. Ils ont cette réputation, et donc ils vont... et des Flamands aussi. Il y avait une église flamande rue de Charonne, jusqu'au début du siècle. Et de même qu'il y a une église luthérienne un peu plus loin aussi. Hein, donc, ouais.
Et puis on a une synagogue.
Alors voilà, ça c'est là vraiment l'originalité. C'est un quartier où arrivent au début du XXe siècle ceux qu'on appelle les judéo-espagnols, ce qu'on appelle plus couramment les juifs de Salonique, des juifs de l'Empire ottoman. Alors ça, c'est, je trouvais ça un petit peu par hasard, on savait qu'il y avait cette tradition, et puis en 2013, la directrice de l'école du quartier, l'école de la rue Popincourt, me demande quelques conseils. Elle voulait faire le centenaire de son école qui avait été ouverte en 1913. Donc on est allé voir dans les registres d'inscription des élèves, 1913, alors registre d'inscription, vous aviez le nom des parents, leur nationalité, leur profession et leur adresse. C'est pour faire une sociologie du quartier. Et donc là, il dit, mais je ne comprends pas, il y a plein de Turcs. Et donc on regarde un peu les cahiers. Effectivement, sur, il y avait 110 élèves à peu près. Enfin, il y avait 35% d'élèves dont les parents étaient de nationalité étrangère. C'est même pas d'origine, de nationalité étrangère. Et la moitié, c'est-à-dire en gros 18-19%, étaient répertoriés comme Turcs. On a regardé les noms. Bon, les noms, c'était évidemment, c'était des noms David, Sarah, etc. J'ai dit, regarde, non, c'est les Juifs de Salonique. Hein, qui... Et alors, c'est ajouté aussi des gens qui étaient répertoriés comme Russes, mais qui disparaissent complètement en 1918. Ils sont remplacés par des Polonais, c'est-à-dire des. C'est pareil. Là, c'était également manifestement des Ashkénazes venus de Pologne.
D'accord. Hein, qui étaient... Et puis alors, donc on avance là, on a des différents panneaux alors sur, oui. Et qui reprennent toute cette vie.
C'est ça.
Et donc les différentes communautés qui voilà. vont arriver les unes après les autres.
Voilà.
Et puis il y a des panneaux qui nous tiennent un peu à cœur, bon, sur la commune de Paris, et notamment un certain Augustin Avrial, il était du 11e alors Avrial ?
Oui, il était installé dans le 11e avant la Commune. Hein, et avant, quand il reviendra après son exil, il ne reviendra pas dans le 11e. Ben, Avrial, alors, d'abord la Commune, le 11e, ce quartier-là, il s'y est engagé dès le 18 mars. Hein, on a des photos de la rue de la Roquette fermée par les barricades. Donc Avrial, c'était un peu l'archétype de ces ouvriers parisiens venus de province. Il vient de Revel, en Haute-Garonne, comme d'ailleurs son compatriote Alman, qui a aussi un square dans le 11e. donc ils viennent de... Et lui, il arrive très jeune, il a 17 ans, et après son service militaire, il travaille dans une petite entreprise de mécanique rue de la Roquette. Et puis ensuite, il va habiter. Alors, il déménage sans arrêt. Il habite ce quartier. Il a quatre adresses. Hein. J'ai trouvé quatre ou cinq adresses dans le quartier différentes. Tous les ans ou tous les deux ans, il déménageait. Il se marie à la mairie du 11e. Alors, au moment de la Commune, Avrial, il est à la tête d'un bataillon de la Garde nationale, qui est le bataillon du quartier, Popincourt. Il est délégué à la production, au travail, à la production, aux échanges. C'est lui qui va organiser la réquisition des ateliers abandonnés. Hein, leur transformation en coopérative ouvrière et qui va participer également à la défense. Vous savez que pour les derniers jours de la semaine sanglante, la Commune se replie de l'hôtel de ville sur la mairie du 11e,
oui.
Hein, pour les trois derniers jours, avec Delescluze en tête, hein, qui vient siéger à la mairie. Et donc, alors ça, c'est l'aspect intéressant de Avrial. C'est d'abord, c'est un des pionniers du syndicalisme. Il participe à la création de la chambre syndicale des mécaniciens. Et en plus, il y avait une école rue Breguet, là, dans le quartier, une école où se réunissait la commission ouvrière, hein, et où ont vu le jour un certain nombre de chambres syndicales.
D'accord.
Hein.
Après,
il part, il est en exil, je pense, et il revient, et là, c'était un mécano dans l'âme. Hein. Il fait des inventions, il invente une machine à coudre, la machine à coudre Avrial, qui va être commercialisée, un tricycle à moteur, hein, qui est présenté au salon de l'automobile. et il va même montrer. Alors, il montra une entreprise avec un associé donc, de commercialisation de la machine Avrial. Il n'était pas très bon en affaires, il s'est fait un peu plumer par son associé. Et finalement, il a dû terminer sa vie. Il a demandé un travail de buraliste, une recette de buraliste qu'il a obtenue en province, et c'est là qu'il est mort à Fécamp. Il n'avait pas réussi à avoir cette recette buraliste à Paris. Quoi.
Ouais. Alors, l'exposition a lieu jusqu'à Jusqu'à quand ?
Jusqu'au 31 mars.
31 mars.
31 mars.
À quel endroit ?
Alors, donc, sur les grilles du square Francis Lemarque, qui se trouve à la hauteur du 190 rue de la Roquette.
Très bien.
Et ça fait l'angle, avec le passage Charles Dallery. Donc, il y a 15 panneaux.
D'accord. Alors, bah, écoute, Francis Lemarque, on va essayer peut-être une chanson, Un gamin de Paris.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurai réussi à mettre Paris en bouteille.
Voilà, et bien, deuxième temps de l'émission, une rencontre avec deux de nos amis, Daniel Guerrier, des anciennes éditions Spartacus, et puis Christian Mailleux, des éditions Syllabs, que nous aurons coup après coup, puisque nous les aurons par téléphone. Est-ce que Daniel Guerrier est en ligne ?
Je suis tout à fait en ligne.
Ah, salut, bonjour Daniel. Alors,
bonjour.
Il fait beau dans le sud ?
Non, alors il pleut jamais, sauf en ce moment.
D'accord. Alors, dis-moi, les éditions Spartacus, alors, après une longue vie militante, quand même, de 1936 à 2022, décident de passer la main, ou est-ce qu'elles gardent une forme de contrôle sur ce qu'elles ont été, sur le fond qu'elles ont constitué ? Comment avez-vous décidé d'évoluer ?
Alors, nous sachant mortels et étant de plus en plus âgés dans l'équipe, c'est-à-dire c'est une équipe où il y a encore 7 personnes, avec un seul jeune, d'ailleurs un historien que tu connais forcément et que les auditeurs connaissent, Julien Fusville, mais c'est le seul jeune de la bande, on va dire, on était très préoccupés de pas arrêter en laissant la porte fermée, mais d'assurer, disons, une suite, y compris après nous, ce qui est d'ailleurs assez peu courant dans le monde associatif au sens large, où trop de choses, où quand les créateurs ou les chevrières disparaissent, s'arrêtent. Alors on y travaille depuis un an. Et il fallait des conditions. Nous sommes une maison d'édition associative non commerciale. Nous sommes une maison d'édition résolument engagée politiquement, donc il fallait que ce soit des gens politiquement proches, sans que nous soyons les tenants d'une ligne politique pure et dure, détenant la vérité, on n'a jamais voulu ça. Il fallait aussi qu'il y ait un fonctionnement quasi bénévole, puisque depuis 1936, au moins à Spartacus, il n'y a jamais eu quiconque de rémunéré dans l'équipe. Et puis, il fallait que ça corresponde à peu près, disons, à notre créneau éditorial, que j'appellerais, en prenant exprès un mot des années 30, éducation populaire.
Alors donc, les éditions Sileps, c'est le choix qui vous a paru le plus pertinent.
Alors, il y avait des maisons d'édition amies, indépendantes, car on se connaît tous, très très proches. Je pense par exemple à Crassi, exemplaire du Teuil. Mais bon, lui, il n'était pas du tout dans l'idée, il fait tout seul, alors il fait encore autre chose. Bon, mais voilà, il y a des éditions proches, effectivement, comme Libertalia, mais là, c'est quand même une entreprise commerciale, même si c'est une très bonne maison d'édition libertaire, comme l'atelier de création libertaire de Lyon. Alors, avec aussi un autre problème. Ça ne pouvait pas être une maison d'édition stricto sensu anarchiste, c'est pour ça que je pense à ACL de Lyon, car nous avons été souvent perçus comme, et je reprends exprès un mot qui avait été employé malheureusement par un de nos amis à la mort de Diane Aguirre, des clowns tristes du marxisme libertaire, donc on se serait égaré du côté du marxisme, on va dire. Et puis ça ne pouvait pas non plus être une maison d'édition par trop marxiste, car pour les marxistes, nous sommes quand même des libertaires. Donc ça devenait compliqué. Après, il y avait aussi les éditions Agone, où on a le plus grand respect, on se connaît bien. Mais d'après nous, les éditions Agone, qui d'ailleurs subissent des crises depuis quelque temps, et vos éditeurs, et vous le savez sûrement, jouent pas dans la même cour. Jouent dans une cour, disons, plus universitaire au niveau de ce qu'ils produisent. Du Bourdieu, des choses comme ça, pour donner des exemples, alors que nous, on veut vraiment rester dans l'idée du projet éditorial des origines, et ce projet a été pensé en réalité en 1934, et j'ai sous les yeux la revue Masse, toute 1934, où le projet en deux lignes est précisé.
Alors la ligne éditoriale, c'était quoi ?
Alors, dès 1934, et on pourra mesurer si on y est resté fidèle ou pas, éditer une série de brochures approfondissant les problèmes présents, tant sur le plan d'action que de la théorie et de la culture, ayant pour but d'armer idéologiquement les militants. Ensuite, éditer une série de brochures d'histoire et de biographie révolutionnaire capables d'inspirer les jeunes générations en reliant leur activité aux traditions profondément humaines des élites du mouvement ouvrier et socialiste et en leur rendant l'héritage passionnel, idéal et héroïque qui fera leur force.
Alors ça, c'est René Lefebvre.
Donc ça, c'est 1934, c'est signé René Lefebvre. C'est lui qui l'a lancé, et ça date de 1934, parce qu'il avait aussi lancé la revue Masse avant Spartacus, et c'est là où il y a ce projet éditorial qui va démarrer par un premier cahier de Spartacus en 1936, dont le premier titre édité va être des textes de Victor Serge, qui s'appelle « 16 fusillés à Moscou », sur effectivement les grands procès de Moscou staliniens.
Alors il y a certains livres qui sont très liés à l'actualité de l'époque, mais d'autres qui ont une belle permanence. Est-ce que par exemple le livre de Serge et Victor Serge est dans cette ligne-là d'avoir de jeter les bases d'une réflexion populaire, comme tu disais, d'éducation populaire.
Alors dans celui-là non, parce non. que celui-là répondait vraiment à informer en particulier toute la gauche européenne des procès de Moscou, parce qu'il y avait encore, faut bien se rendre compte qu'il y avait une censure énorme exercée par Moscou, pour prendre qu'un exemple. Quand Rosa Luxembourg écrit un petit texte, et on y reviendra après, qui s'appelle « La Révolution russe », dès 1918, elle critique totalement la Révolution russe, en disant « ils ont tout faux, le parti a toujours raison sur le peuple, ça n'a aucun sens, le rôle des syndicats ramené à pure courroie de transmission, ça n'a aucun sens ». Et ce texte-là n'a pas été connu en France avant 1932. Et c'est d'ailleurs les amis de René et René qui l'ont fait connaître en France. Donc le texte sur 16 fusillés, il est vraiment sur les procès. En revanche, il va y avoir d'autres textes de Victor Serge. Et alors aujourd'hui, c'est particulièrement présent, puisqu'il y a un de ces textes, c'est le nouvel impérialisme russe.
Oui. Alors, donc ça, c'est bien. Est-ce que, alors, quel est, vous en avez, enfin, Les éditions Spartacus ont édité combien de livres ? T'as une idée ?
Grosso modo, au jour d'aujourd'hui, il nous reste environ 150 titres,
ouais,
dont les plus âgés ont été édités dans 46-48. Donc ça fait partie de ceux que n'a pas repris Stileps, parce que du papier tellement jauni que le mettre dans le circuit de librairie, il vaut mieux oublier. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait rien, puisqu'en ce moment, on les distribue largement à tous nos proches au sens large. Alors en tout, puisqu'il y a quand même beaucoup de livres qui sont arrivés à épuisement au fil de l'histoire, puisqu'on en est à 150, je dirais qu'il y aurait eu à peu près 250 titres de 36 à 2022.
Et alors quel est l'ouvrage peut-être le plus emblématique de la collection ?
Alors, ça impose deux choses, de la réponse. C'est un ouvrage qui est paru sous différents titres. Et quand j'ai parlé de la Révolution russe de Rosa Luxembourg, d'abord, pourquoi ça s'appelle Spartacus ? C'est pas faux que ce sont des gens, René et les gens qui sont autour de lui, sont des gens qui se revendiquent de Rosa Luxembourg. Mmh. Mais qui ne s'en sont jamais revendiqués de façon dogmatique ni sectaire. C'est-à-dire, ils n'ont jamais voulu se dire, on va dire, luxembourgistes. Mais pour citer à peu près les gens qui sont autour de René, déjà en 34, au moment où ils réfléchissent dans le cadre de masse, ben, autour de lui, il y a des gens comme Michel Léris, qui est plus que connu,
oui,
comme Henri Poulaille, comme Jacques Prévert. Mmh. Et puis, on va retrouver aussi quelqu'un qui va écrire sur le gauchisme beaucoup plus tard, qui s'appelle Rabot, mmh, Jean Rabot. Il y a déjà des exilés allemands, qui sont barrés d'Allemagne Et donc, la référence à Rosa Luxembourg, elle est très claire, mais elle est sans exclusive ni dogmatisme d'entrée. C'est-à-dire que ça serait réduire Spartacus en disant « Ah bah oui, les luxembourgistes ». Non. Mais malgré tout, si ça s'appelle comme ça, c'est pas du tout par hasard. Donc, c'est quand même Spartacus et surtout l'un des membres, Lucien Laura, qui ont fait connaître Rosa Luxembourg en France, malgré les diktats moscovites relayés par le PC français, diktats même qui jouaient pour Marx lui-même. Il y a des tas de textes de Marx qui, soi-disant, Marx ne les aurait plus repris à son compte comme ses écrits de jeunesse. C'était totalement faux. Marx, jusqu'à sa mort, n'a jamais mis en cause ses exils de jeunesse. Ce n'était pas des erreurs de jeunesse, comme on voulait expliquer à l'époque.
Oui, oui.
Donc, la dernière fois où on a fait un recueil à nouveau de textes de Rosa, ça a été en 2016, et ça s'appelle « Le but final », et ça rassemble des textes qui nous paraissaient importants de Rosa Luxembourg. Donc, si on me demande vraiment, parce qu'après c'est trop compliqué tellement on a été éclectique, à la fois c'est dans la lignée du projet de départ, à la fois c'est du Rosa Luxembourg non dogmatique et non sectaire, et même si je suis un peu Daniel Guérin, mon vieux compagnon, où lui il a fait un bouquin sur Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire, montrant à quel point elle était proche des anarchistes, même si elle passait son temps à les attaquer, mais c'est justement parce qu'elle en était proche. Parce qu'on a toujours été hérétique, on va dire.
Ouais. Alors, après, pour porter les éditions, vous avez créé une association.
Non, c'est pas...
Comment ça s'est
pas
passé,
comme
alors
ça s'est passé. Alors voilà, ça s'est passé que réellement René... Alors, il faut expliquer qui est René Lefebvre. Il est en 1902, il est breton, et il est en réalité ouvrier maçon chez son père, qui est artisan maçon. Et à 20 ans, il va venir à Paris, et en fin de compte, après, il va plus jamais repartir. Et d'abord, à Paris, d'ailleurs, il va monter une petite boîte de maçonnerie au début, qui va d'ailleurs faire faillite. Il en avait honte. Nous, on était très contents qu'il ait fait faillite, parce qu'il aurait jamais fait les éditions Spartacus. Mais il va se rapprocher des courants marxistes et tout ça de l'époque, en particulier Boris Souvarine, un des fondateurs du PC français, qui est bien connu par son histoire de Staline. Mmh. Et donc un peu, et c'est là que va se créer, il va d'ailleurs adhérer à une association très culturelle. Alors au début, c'est aussi très culturel au point d'inviter à organiser, à aller à des concerts, à des séances de cinéma. Tout ça, l'éducation populaire, à la limite, dans les idées presque des bourses du travail des origines. et donc autour de la revue Monde d'Henri Barbus. Et c'est là, et malgré tout, ces gens-là sont à la SFIO encore à l'époque, et ils vont en être à la gauche, qui va donner la gauche révolutionnaire de la SFIO.
Oui, c'est Marceau-Pivert et compagnie.
Pardon ?
C'est Marceau-Pivert et autres.
Voilà, qui hein? a été fui en réalité parce qu'ils hurlent quand, vis-à-vis de la non-intervention en Espagne, car eux, ils veulent intervenir, et donc ils vont, en sortant, ils vont créer le PSOP, Parti oui. Socialiste Ouvrier et Paysan, où d'ailleurs, il, par exemple, René sera aussi avec Daniel Guérin. Et là, d'ailleurs, ils vont réellement aider l'Espagne, y compris en armes, matériellement, plutôt d'ailleurs avec, leur, disons, leurs frères les plus proches, on va dire le POUM, lequel POUM ne peut pas se réduire à des trotskistes, puisqu'en réalité, même Trotsky ne les reconnaissait pas.
Alors, cette association-là,
oui, alors l'association, j'y viens. Donc c'est quand même René qui va devenir après, bon, par le milieu qu'il va fréquenter, il va devenir correcteur, et qui va connaître, qui va quand même tenir à bout de bras, même si sans arrêt, des amis partis bénévolement au travail ou mettent parfois la main à la poche, mais lui, il fait plus que la main à la poche. Quand il est, par exemple, correcteur à Combat, qui à un certain temps était dirigé par Albert Camus, il travaille de nuit, puisque c'est un journal quotidien, les correcteurs de presse travaillent la nuit. Le jour, il construit sa maison à Boussy-Saint-Antoine, dans la banlieue sud de Paris, où après il va entreposer les livres, une maison énorme, mais comme il est maçon, il sait faire. Et en même temps, il s'occupe de Spartacus, et il met même carrément son salaire dedans. Donc il va le tenir vraiment à bout de bras. Puis il va effectivement vieillir, et en 79, il est encore vivant, mais il se rend compte lui aussi qu'il faut préparer la suite. Et c'est ensemble que les copains autour de lui, dont moi, qui ne suis pas vraiment à plein temps là, parce qu'à l'époque je suis dans une collectivité sur la frontière espagnole, mais qui connaissent Spartacus depuis 70, et j'y vais arriver après en 81, c'est l'association des amis de Spartacus, dont il est le président d'honneur. Mais alors là, je vais raconter des choses très intimes, mais ça me paraît intéressant pour les auditeurs. Il avait gardé un espèce de droit de veto. Et il a fallu qu'on bagarre pour annuler ce droit de veto de son vivant, ce qui l'a rendu malade tellement c'était son bébé, Spartacus. Mais malgré tout, intellectuellement, il était d'accord avec nous, et ça s'est fait. Donc, ça veut dire que 79 se crée l'association, où il est déjà, et il va décéder en 88 de maladie qui va mal tourner, une opération qui, y compris, va mal tourner. Mais le collectif est capable déjà de fonctionner sans lui. Et d'ailleurs, les tout derniers temps, il ne peut plus s'en occuper. Et donc, il va avoir, tout comme nous maintenant, à cœur de préparer la suite. Et nous, dès qu'il est décédé, 88, c'est la même année d'ailleurs que le décès de Daniel Guérin, son vieux compagnon, on va avoir à cœur de lui être fidèle, et puis donc on a eu à cœur aussi de préparer la suite.
D'accord. Donc, ce qui vous a permis de créer cette association, et puis là, bon, bah, comme tu disais d'entrée de jeu, bon, bah, on s'aperçoit tous qu'on n'est pas éternel. Mais alors, vous avez dû rassembler une masse de documents. Ça doit être une mine, les éditions Spartacus.
Alors, c'est pas faux. C'est même pas que les éditions qui sont une mine. Je dis ça parce qu'à un moment où j'étais au chômage, et à la mort de René, par exemple, il y avait des dizaines de tonnes de livres, mais pas que de livres, d'archives, tout ça, dans la maison de Boussy-Saint-Antoine. Et je vais nager dans les livres, vraiment au plein sens du terme, à temps plein, presque 7 jours sur 7, pendant 4 mois. Donc, parce que René aussi conservait tout à tel point qu'il y a un fonds d'archives Spartacus à la BDIC, qui maintenant s'appelle la Contemporaine, qui contient mais des dizaines de cartons, parce que René avait aussi eu des relations et des correspondances avec plein de gens aux quatre coins du monde. Et il avait tout gardé.
Donc ces archives...
Tout ça est archivé.
Mais où alors ?
À la Contemporaine.
Donc c'est Nanterre, la Contemporaine.
À Nanterre. Hein ? Alors, pourquoi Nanterre ? D'abord, on a toujours fait très attention d'archiver dans des centres de documentation institutionnelle. C'est pas qu'on est des défenseurs de l'État, c'est pas le cas, mais ça a le mérite de éventuellement pas disparaître, puisque là, ça, c'est dans le cercle universitaire, avec d'éventuels changements politiques. C'est pour ça aussi.
D'accord.
On a beaucoup d'archives à Amsterdam, à l'Institut d'Histoire Sociale, ou alors là, c'était encore mieux, puisque le pays étant relativement neutre et relativement stable, les Pays-Bas, et c'est d'ailleurs là où tu sais très bien qu'il y a toutes les archives de la CNT.
Oui, 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 tout à fait. Alors, écoute, on est obligé là de couper l'émission en deux, et tu sais que certainement que Christian ne peut pas être avec nous dans le studio pour des raisons familiales. On va donc raccrocher. J'espère qu'on va se retrouver dans l'émission de notre ami Christiane Passevant, hein, bien évidemment. Et puis,
alors oui, pourquoi Christiane Passevant? Christiane Passevant est une ancienne aussi du collectif des Amis Spartacus.
Et voilà.
Et en particulier quand elle était la compagne de Larry Portis, qu'on a édité d'ailleurs sur son livre sur les IWW. Christiane Passevant, après, s'est mise à faire autre chose. Elle anime Chronique Rebelle régulièrement et elle a régulièrement présenté toutes nos nouveautés.
Voilà.
Je dis deux, trois mots sur nos derniers livres quand même. Le tout dernier livre, mais c'était, certainement pour un tout petit public, mais on avait à cœur de terminer, enfin de le faire, la réédition des luttes sociales au temps des corporations. Alors soyons clairs, hein, c'est pas le corporatisme de Pétain, c'est bien avant, c'est sous l'Ancien Régime et même avant la Révolution française, pour comprendre un peu d'où vient tout ça, et d'ailleurs d'où ont émergé beaucoup plus tard les syndicats. Et l'avant-dernier bouquin, c'est très important, c'est d'un vieux copain qu'on a enterré malheureusement en 2017, Henri Mélic, un anarchiste d'origine espagnole. Ça s'appelle Guerrillero France 44, une contre-enquête, parce que ça montre qu'à l'intérieur de l'Union nationale espagnole, tenue par le PC espagnol de l'époque, il y a eu des épurations après le débarquement des Alliés. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a eu des épurations dans tous les maquis. Et là, ça s'est passé avec quasiment 200 morts. C'est même documenté par Geneviève Dreyfus-Armand, ancienne directrice de la BDIC et très proche de nous. Et donc, Henri Mélic a été mêlé à ça. Et ça permet de rendre leur honneur à des gens qui ont des pierres tombales dans la région où j'habite, où c'est marqué qu'ils ont été fusillés par les fascistes, alors qu'ils ont été fusillés par leur chef.
Ouais. Alors, écoute, on aura l'occasion de reparler de ces livres, parce que c'est pas fini, je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. On va raccrocher pour laisser à Christian le soin de nous appeler, pour nous dire un petit peu comment...
Moi, je reste à mon bureau.
Ouais,
ça
d'accord.
Ça veut dire que même pendant qu'il y a Christian, si tout d'un coup, faut que je lui claque le bec parce qu'il dit une bêtise, tu me rappelles.
Merci. Allez, en tout cas, à bientôt, merci.
Salut, fraternité, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, tout à fait.
Voilà.
À bientôt, Daniel. Au revoir.
Ni traître, c'est une confrérie où on se reconnaît.
Oui, aussi.
And straight jazz became hot, thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It is the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle. Finally, here is...
Allô?
Oui.
Allô, Christian, bonjour. Bon, bonjour. Écoute, on a réussi à pouvoir se connecter, c'est parfait. Alors, dis-moi, c'est quand même un fabuleux cadeau que reçoivent les éditions Sileps, là. C'est des dizaines de bouquins, et encore, je crois que vous n'avez pas tout repris. Il y en a 78, je crois. Qu'est-ce qui vous a guidé?
Comme j'ai entendu ce que Daniel expliquait tout à l'heure, donc je vais pas reprendre, mais il y a notamment effectivement l'état d'un certain nombre de livres, parce que en fait ils sont invendables entre guillemets dans le circuit normal des libraires, ce qui retire rien à leur intérêt. D'ailleurs, Daniel a expliqué qu'ils étaient y compris en train de les mettre à disposition de proches des ex-éditions Spartacus. Donc voilà, ce qui nous a essentiellement guidé, c'est ça, mais c'est aussi évidemment l'intérêt des titres, puis c'est y compris la disponibilité, puisque quelques-uns étaient quand même en nombre extrêmement réduit. Il y en a quelques-uns qui sont d'ailleurs dans cette catégorie-là, sur lesquels on se pose quand même la question de réédition. Donc voilà, enfin, c'est un peu ça. Après, enfin, oui, non, cadeau, oui, mais c'est y compris, moi je dirais une certaine fierté hein, de pouvoir contribuer à continuer la vie de ces éditions. Je sais que Daniel ou Jean-Michel, enfin, les camarades qui animaient essentiellement l'association des amis de Spartacus, n'aimerait pas qu'on dise continuer, puisque justement ils tiennent à ce que ce soit arrêté et que ce soit autre chose maintenant. Mais enfin voilà, pour nous c'est quand même ça aussi, c'est faire continuer à faire vivre ces ex éditions à travers ce qui est devenu donc une des collections des éditions SIDEPS, qui s'appelle Cahiers Spartacus, quoi, pour faire suite bien évidemment à ce que c'était, quoi.
Alors comment vous avez assuré l'accueil d'un tel apport dans votre maison d'édition SILEPS?
Je passe sur tout le boulot très pratique qui a été fait pour l'accueillir, mettre avec le diffuseur, les stocks, la gestion des stocks, etc. Où c'est son côté Spartacus, c'est essentiellement Jean-Michel Kay qui a fait le boulot, et côté SILEPS, c'est Emmanuel Delgado, un de nos camarades, qui a fait. Et voilà, c'est vraiment eux deux qui ont traité le plus gros du boulot. Après, nous, c'est la mise en valeur aussi de ce fonds qu'on reçoit. Et on l'a fait suivre l'info à travers notre lettre d'information. On l'a mis un peu en avant sur notre site, le site des éditions SILEPS. Daniel citait effectivement le nouvel impérialisme russe de Souvarine, parce que bon, voilà, c'est en plein dans l'actualité. Ça fait partie des bouquins qu'on a du coup mis en avant. Et puis voilà. Et on a dans l'idée donc on va le faire probablement d'éditer y compris de nouveaux livres qu'on mettra dans cette collection Spartacus. Et l'idée, c'est d'échanger notamment avec Daniel, qui fait un peu l'interface, si on peut dire, entre l'ancienne équipe Spartacus et nous, grosso modo, de vérifier que ça les heurte pas, tel ou tel titre qu'on envisagerait de mettre dans cette collection. Mais avec les camarades de Spartacus étaient très clairs là-dessus, en disant que en tout état de cause, c'est nous qui choisissons, quoi. Il n'y a pas de volonté de garder une main mise sur ce qui est maintenant la collection des cahiers Spartacus chez SIDEF. Mais de notre côté, par contre, une question de je sais pas comment dire, de morale, d'honnêteté, de rapport, ça nous paraît normal de garder évidemment ce contact, quoi.
Alors, SILEPS, on rappelle en deux mots l'origine, la ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est que les éditions SILEPS?
Les éditions SILEPS, très très rapidement, donc ça, c'est né en 1989. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à la ligne éditoriale. C'est un peu...
vous ne publiez pas tout et n'importe quoi, quand même.
Non, mais je dirais les lignes éditoriales, oui. Peut-être. C'est surtout... une maison d'édition militante sous forme associative, donc coopérative d'édition, on peut le dire comme ça. C'est comme ça qu'on se vit, en tout cas, avec une petite équipe d'une quinzaine de personnes bénévoles et un camarade qui fait partie de l'équipe pleinement, mais qui lui est salarié. Et sur les lignes éditoriales, le truc, c'est on se veut une maison d'édition au service du mouvement social, des mouvements sociaux, voilà, pour le dire très rapidement. Donc ça inclut le féminisme, l'anticolonialisme, le syndicalisme, toute une série de choses. Si on le traduit, on pourrait dire que on y retrouve une influence des courants marxistes, anti-staliniens et autogestionnaires. Et aussi, il y a un certain nombre de bouquins qu'on peut rapprocher du courant libertaire, mais c'est pas comme ça en fait qu'on raisonne, quoi. C'est vraiment une idée d'avoir des trucs qui soient des outils pour pour les mouvements sociaux actuels, alors que ce soit des textes de référence, hein, on a une collection qui s'appelle par exemple « Le marxisme », qui est, on va dire, composé de bouquins théoriques, on peut le dire comme ça, mais on a aussi des bouquins d'intervention, des bouquins sur l'histoire du mouvement ouvrier dans ses différentes dimensions, voilà. Et puis, un certain nombre de revues, dont, par exemple, je vais faire un peu de pub pour quelque chose qui tient à cœur, mais dont Les Utopies, qui
est très bonne revue.
de l'Union syndicale solidaire. Non, mais si je la cite, c'est pour dire, voilà, c'est aussi ça, la maison d'édition Silève, c'est un travail avec, par exemple, les organisations syndicales, donc là, en l'occurrence, Solidaire, mais aussi avec la CGT, ou en tout cas des militants, des millions de CGT dans les derniers livres là qu'on sort. Il y a plusieurs titres qui sont des livres en fait écrits par des camarades.
Alors, tu as des titres là à nous donner ?
Oui, bah là, par exemple, on sort un bouquin qui est sur la santé au travail, qui s'appelle Santé au travail. Bon, d'ailleurs, dans le titre, je pense, c'est assez clair. Santé au travail et lutte des classes, et dont l'auteur est un camarade de la CGT qui s'appelle Philippe Saunier. Il y a un deuxième titre qui sort qui s'appelle Ma fibre syndicale par Benoît Martin, qui est aussi un militant de la CGT, de l'Union départementale CGT Paris. Voilà. Voilà un peu pour dire, et ce travail, y compris avec tout un volet, évidemment, sur le féminisme, puisqu'il y a quand même beaucoup de titres aussi dans ce domaine-là, et sur l'antiracisme et l'anticolonialisme, avec notamment les guides. Alors, il y a eu le premier qui était le guide du Paris colonial, et depuis, il y a toute une série avec Marseille, Bordeaux, Rouen, Soissons, et peut-être que j'en oublie un d'ailleurs.
Et quel est le thème de la revue, là, les Utopiques, c'était quel est le thème du dernier numéro ?
Alors, le dernier numéro, il est autour de la question des impérialismes, guerre, paix, désarmement et impérialisme. Impérialisme avec un S. On l'entend pas bien à l'oral, mais c'est important.
Ouais. Alors, il y a d'autres actions en prévision, non ? Vous avez prévu des manifestations spécifiques, des salons du livre, des choses comme ça, pour valoriser les éditions Silev, c'est particulièrement la collection Spartacus.
Oui, bah après on est comme je disais impliqué dans les mouvements sociaux, ça veut dire qu'on est aussi, on essaye d'être présent. Par ailleurs, on est impliqué très directement dans un certain nombre d'initiatives en tant que maison d'édition. C'est le cas. Bon, alors ça renvoie un peu plus loin, mais c'est le cas sur la manifestation annuelle qu'il y a pour célébrer la commune. Donc, ça sera le 3 juin.
Oui, 3 juin.
Cette année, où on est en tant que maison d'édition partie prenante sur les 50 ans de LIP aussi, où il y a un certain nombre d'initiatives qui seront organisées en septembre, mais aussi en juin. Et là aussi, on sera partie prenante. On sera aussi présent, par exemple, au salon anticolonial. Les 25 et 26 mars à la Barre Lérante à Montreuil. Et par ailleurs, je ne l'ai pas du tout dit, mais on est en ce moment et depuis un an en fait très impliqué dans la question de la solidarité avec la résistance syndicale et populaire ukrainienne contre l'invasion de l'armée russe. Et donc on a publié là plusieurs livres, à la fois une série de PDF gratuits, il y en a 16 aujourd'hui, et puis plusieurs livres sur le sujet. Et peut-être dernier truc qui me vient à l'esprit là, c'est justement par rapport aux PDF mis à disposition, les éditions Silev, c'est aussi en collaboration là encore une fois avec une association du mouvement social, avec l'association pour l'autogestion. C'est l'Encyclopédie internationale de l'autogestion, une douzaine de tomes déjà parus, qui sont commandables en version papier, mais qui sont aussi mis à disposition sur le site en PDF gratuit.
Alors donc, effectivement, la lettre des éditions Silep, moi je reçois régulièrement vos publications, l'annonce de vos publications, et puis on peut aller sur le site où on a quantité d'informations, et effectivement sur la lutte en Ukraine, je voulais aussi le souligner, c'est vraiment très bien. Donc, Donc nous relayerons bien sûr toutes ces initiatives, et puis j'espère que on aura des livres de Spartacus encore à valoriser. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est La Peste brune de Daniel Guérin. Ce livre était totalement visionnaire. Faut voir quand même, il l'avait écrit à son retour de l'Allemagne, enfin d'un voyage en Allemagne, et c'était effrayant ce qu'il voyait. Évidemment, on n'a pas voulu voir. On a vu ce que ça a donné. Bon, en tout cas, Christian, merci. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver dans les différentes manifestations dont tu as fait état. Merci. Allez, au revoir.
Merci. Au revoir.
On va peut-être passer Marc Augeret. Frédéric.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en graisse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Giraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion, l'électeur c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi, je suis abstentionniste, ami voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Eh bien, voilà, donc troisième temps de l'émission. Alors, je rappelle avant tout que tous les livres, les titres des ouvrages commentés, vous pouvez retrouver les références sur le blog du groupe Communes de Paris de la Fédération anarchiste. Et puis, les livres, vous pouvez les commander. Alors, les livres de Sileps, vous pouvez les commander évidemment chez Sileps, mais vous pouvez aussi les commander à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. Troisième temps, vraiment là, ça y est, on y va. La beauté de l'art, c'est Agnès qui nous fait découvrir des expositions et leurs catalogues, mais aussi des livres consacrés à l'imprimerie. Elle avait présenté Garamond au mois de novembre. Et aujourd'hui, c'est Marcel Jacquenot, un très beau livre de Michel Vlasikoff,
aux éditions Actes Sud de l'Imprimerie Nationale. C'est en effet un hommage à Marcel Jacquenot, écrit par Michel Vlasikoff, historien et surtout enseignant dans la plupart des écoles supérieures d'art public et d'art privé en France, spécialisé dans le domaine du graphisme et de la typographie. C'est un travail biographique remarquable, une mise en valeur de son immense contribution artistique en qualité de graphiste et typographe au patrimoine. Enfin, son prestigieux et précieux héritage pour tous les créateurs actuels du numérique. Mais qui est donc Jacquenot ? Marcel Jacquenovitch est né à Paris le 6 août 1904. Il est fils d'immigrés russes d'une famille de joailliers dans le quartier de Montmartre. Après quelques essais dans le milieu des perles fines, on le laissera s'orienter vers le graphisme, force du succès de quelques caricatures. Grâce à son mariage, il intégrera le milieu bourgeois parisien, ce qui lui ouvrira les premières portes pour sa passion, le graphisme et la typographie. Il se fait vite un nom dans le milieu cinématographique du film muet pour des affiches de cinéma, dont Loulou avec Louise Brooks, et des affiches de films de Chaplin, comme par exemple Évadé ou Les Migrants, et devient dessinateur typographique. En 1929, il rentre en contrat avec la plus grande fonderie de caractère du Bernier Peignot. Il créera le caractère film, puis le scribe, puis l'onyx, puis le Jacquenot. Le caractère film est encore connu aujourd'hui et sera en vogue dans la publicité et les titres de magazines. Il est très graphique, en bâton et prolongé de trames à plus ou moins gros points, selon une charte très étudiée. Puis le scribe, c'est un caractère qui façonnera à partir de sa propre écriture comme modèle et qui sera la typographie créée pour le dictionnaire encyclopédique Quillet. C'est un grand tournant dans son existence de graphiste, aussi pour son intéressement pour les emballages, au conditionnement de toutes sortes. Il se met à enseigner dans les écoles d'art graphique. Il s'installe un moment à New York, dont il exacte les qualités graphiques sophistiquées de la typographie et de la photographie. À son retour en France, après une période de mobilisation dans la tourmente des années de guerre, il participe à la résistance en créant bon nombre de faux papiers. C'est à ce titre, et non pas parce qu'il est juif, qu'il sera dénoncé et envoyé en déportation à Dora, puis Buchenwald, déportation, violence et blessures pendant lesquelles, pour occuper ses réflexions, il posera les bases de son anatomie de la lettre, qui sera publiée à l'école Estienne, et de cet ouvrage lui vaudra un doctorat d'université après une soutenance à la Sorbonne en 1980. Marcel Jacquenot, 10 milliards de signatures. Voilà comment sera accueilli Jacquenot de son retour de déportation qu'il a réussi à fuir après bien des soucis de santé lorsqu'il recréera l'illustration centrale du paquet de Gauloises bleues. À défaut de droit d'auteur, son nom sera apposé sur chaque paquet de cigarettes gauloises. Puis Jacquenot rencontre Jean Villard du Théâtre National Populaire et dans l'esprit commun des deux, ils essaient de rapprocher le théâtre du plus grand nombre. Il utilisera alors un logotype comme un tampon de service public répété sur toutes les affiches. Il transformera le caractère dido en caractère pochoir, toujours organisé sur la même ligne graphique. Puis le Festival d'Avignon, il l'authentifiera avec ce spectacle de rue en apposant aussi les trois clés stylisées du blason de la ville d'Avignon. Jacquenot dira à ce sujet « Toute création typographique doit répondre à un besoin réel et jouer un rôle pédagogique auprès du public. Elle doit aboutir à l'exact moyen d'expression nécessaire. » Puis il crée l'Hippocrate et le savoir. Puis
qu'est-ce que c'est l'Hippocrate, le savoir ? C'est les caractères ?
C'est les noms de caractères.
C'est les polices de caractères.
Oui, c'est les polices de caractères. Puis le chaillot, puis le théâtre. Le chaillot demeure encore, de nos jours, un des pochoirs les plus demandés et a été numérisé en 2007. Toujours dans le même souci de l'empreinte du pochoir et du sceau pour être reconnu partout et être mémorable. En 1970, il réalise tous les éléments des affiches de la Comédie française, un alphabet exclusif de Molière, un tampon comme pour le Théâtre National Populaire. Il enferme le nom de l'institution en son centre, la date de la fondation. Le caractère Molière est très inspiré du Garamond, dont j'ai du reste parlé dans une précédente émission, en effet. Il créera aussi le Corneille, travaillera en outre pour le théâtre de Jean-Louis Barrault. Il aura la reconnaissance de ses pairs en 1968, avec la remise de l'Oscar de la publicité. Et à chaque édition typique, il multiplie des créations typographiques, alphabets, titres et lettrines, et intègre les éditions Azan, principale maison d'art de France, et bien d'autres. Il interviendra aussi dans des périodiques comme l'Observateur des années 50 et François, sans oublier son travail avec des entreprises commerciales de grand renom comme Lip, des entreprises de cosmétiques comme Chanel et Guerlain. Bref, un travail d'orfèvre, de passionné, dont il dira, je cite, « S'il est vrai que l'idée précède le dessin, il faut admettre que le peintre pense que le pinceau a la main. La main réalise l'intention, mais le bonheur d'une main exercée peut goûter à cette intention une réussite de forme qui vient par-dessus le marché et constitue ce qu'on appelle la grâce typographique. » C'est tout de même une époque particulièrement vulnérable où les fondeurs comme Peignot et Duberny investiront dans les premières machines de photocomposition, puis les premiers ordinateurs numériques. Fort déçu de ces turbulences, malgré le prestige de son travail, mais surtout sa grande modestie, il se qualifiera alors de graphiste.
Marcel Jacquenot. Moi, j'aime beaucoup la notion de la grâce typographique. Ah, c'est une élégance totale.
Tout
ça.
À fait. Tout à fait.
Et toi qui as travaillé dans ce domaine, évidemment, ça te parle.
Tout à fait. Et c'est, je trouve que la référence à la grâce est un appel à l'art, au reflet de artistique, au reflet du travail de ses parents orfèvres. Tout reste dans une élégance magistrale que j'admire et très, très précieusement décrite par Michel Plassikoff.
Alors, on rappelle le titre de l'ouvrage ?
Marcel Jacquenot, graphiste et typographe, de Michel Plassikoff, aux éditions Actes Sud de l'Imprimerie Nationale.
Alors, c'est une très belle édition.
Très belle édition de ces livres qu'on regrette de terminer. Des reproductions couleur de toutes ses créations en son domaine, jusqu'à la découverte d'une affiche en guise de couverture illustrant la démarche créatrice typographique de Jacquenot. C'est un excellent repère pour tous les passionnés d'art graphique et autres.
Oui, c'est vraiment un livre qui est un objet d'art et qui ne se contente pas d'être un ensemble de pages.
Et une surprise autant de l'image que des commentaires.
Voilà. Mmh. Tout à fait. Alors, Frédéric, est-ce que tu avais une annonce, tu avais un rappel d'annonce à faire ?
Tout à fait. Alors, je vous confirme bien que c'est bien à 14h30 qu'aura lieu la causerie populaire libertaire, au thème que je vous ai rappelé, casse des services sociaux, retraite, hôpitaux, services publics, donc 14h30. Et si vous voulez nous contacter aussi et visiter notre blog, vous taperez Fédération Anarchiste Commune de Paris overblog.com, vous mettrez des petits tirets entre chaque mot. Voilà. Et puis, si vous voulez aussi nous contacter par voie électronique, vous pourrez le faire aussi sur le blog à la rubrique Contact, ou alors nous retrouver sur Contact du site de la Fédération Anarchiste. Et je crois que Francis peut vous rappeler par la suite la page Facebook qu'il anime de l'émission. Voilà, je te redonne la parole, Francis.
Alors, la page Facebook s'appelle effectivement et tout simplement Au fil des pages, et elle reprend le logo de notre émission. Alors, en attendant Dominique, j'aimerais bien vous parler d'un livre de Tardy. On aime bien Tardy dans notre émission et à l'AFA en général, et je voudrais aborder son dernier album consacré à Adèle Blanc-Sec, Le bébé est intitulé « Le bébé de la butte Chaumont ». En 1976, Tardy commençait cette série à l'invite de Jean-Paul Mougin, qui était le responsable de la revue à suivre, une revue qui n'existe plus aujourd'hui, une revue fabuleuse. 10 albums. Adèle, c'est une subversion des codes du roman feuilleton. Tardy conquiert un vaste public séduit par son sens du rocambolesque et le baroque d'une imagination débordante d'originalité. Pour ceux qui ont lu, vous vous rappelez ou vous découvrirez pour les autres les savants fous, les momies, les ptérodactyles, un goût pour le délire des textes et des dessins. Rappelez-vous, Adèle et la bête, Momie en folie, Le démon de la tour Eiffel, des titres qui donnent envie de lire et qui sont des un peu comme les titres des romans et des feuilletons populaires de la fin du 19e, 20e. Le tome 10 met un point final. Toute la bande est là. Alors pour s'y retrouver, on aurait peut-être intérêt à relire les 9 autres. Mais après tout, pourquoi pas ? C'est pas désagréable, parce que on va retrouver tous ces cinglés, tous ces baroques, tous ces personnages, et quand on s'y perd un peu, et que un personnage apparaît à un moment, moi je vais dans la bibliothèque, je vais dans ma bibliothèque, puis je vais le chercher, et j'en profite pour relire la bande dessinée qui le présente. Et ce qui m'a séduit dans cette série. Bon, outre cet aspect drôle, amusant, rocambolesque, c'est le goût et la précision du décor parisien de la Troisième République. On a presque envie de relire chaque album et puis de se rendre sur les lieux, c'est-à-dire à Sèvres-Babylone, au Jardin des Plantes, à la Tour Eiffel, dans les catacombes. Une atmosphère de nuit dans un Paris sans voiture. Je ne vous en dis pas plus. Ah si, un mot sur la caricature des gardiens de la paix, la préfecture de police, et Adèle, cette héroïne décalée, comme en embuscade pour nous faire découvrir une triste société et ses perversités. Ah, est-ce que la fin de la BD nous laisserait un espoir ? Je ne sais pas. En tout cas, à vous de lire Jacques Tardy, Le bébé des buts de Chaumont, édition Casterman, 2022. Voilà, vraiment, je voulais parler de cette bande dessinée parce que elle est assez goûteuse. Est-ce que nous avons Dominique en ligne ?
Tout à fait, Francis.
Alors, Dominique, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, avec Dominique, qui alterne la présentation de romans et de poésie, aujourd'hui, c'est de la poésie, je crois. Deux femmes ?
Oui, trois.
Trois. Mais,
oui, alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Matrix, de Lorraine
Groff. C'est un truc de science-fiction, ça, non ?
Non, pas du tout. Bon. C'est de l'historique fiction, à la limite, mais c'est pas de la science-fiction.
Ah là.
Donc, c'est une Américaine, Lorraine Groff, et donc ça a été admirablement traduit par Catherine Chichereau aux éditions de L'Olivier. Mmh. Et je terminerai, je mentionnerai rapidement deux femmes très portées aussi sur la littérature, Christine de Pizan, puisqu'on vient de ressortir aussi un de ses recueils, et Marguerite de France, qu'on vient de... En fait, c'est les 450 ans de sa naissance, et je vous dirai en quoi elle est intéressante. Alors, Matrix... Lorraine Groff est une jeune écrivaine très appréciée d'Obama et elle s'est lancée dans la vie de Marie de France, qui est une poétesse du XIIe siècle, née en 1160, donc 100 ans avant Christine de Pizan. Et c'est la première femme de lettres à écrire en ancien français. Elle a produit des laits. Hein,
qu'est-ce que c'est, des laits ?
Ce sont des poèmes en octosyllabes.
D'accord.
Donc, ils connurent un immense succès, notamment le chèvrefeuille. Et elle a écrit aussi des fables et des contes inspirés de légendes bretonnes. L'originalité de ces fables et de ces poèmes, c'est que souvent, elle dénonce l'oppression des pauvres et les abus des puissants. Alors, il y a peu de sources historiques, mais Lorraine Groff reprend l'hypothèse qui fait de Marie une fille naturelle des Plantagenets. et qui, un Plantagenet, qui aurait violé sa mère. Elle serait la demi-sœur d'Aliénor d'Aquitaine, qui la relégua à 17 ans dans une abbaye anglaise où elle devint la prieure. Et donc, c'est dans cette, elle raconte comment Marie va se révéler dans cette abbaye. Elle va poursuivre ses idéaux, sa passion des mots et des textes. C'est une libre penseuse, une érudite et en même temps une femme sensible à la souffrance et à la poésie. Elle arrive dans une abbaye où ne règne que la misère, la malfaim, elle dit la malfaim et la maltraitance. Et Marie va redresser cette abbaye, elle va récupérer les loyers impayés, elle va mettre au pas les fermiers récalcitrants, elle va faire des plantations, et puis donc tout en revendiquant son indépendance. Alors, elle va augmenter le nombre de nonnes, elles étaient que 20, elles seront une centaine, et cette abbaye va devenir vraiment un symbole de prospérité en Angleterre, suscitant la jalousie des hommes. Alors, on y et des ecclésiastiques aussi, hein. On y croise des femmes de toutes conditions, des paysannes, des servantes, des oblates, des moniales et des novices, qui prient et travaillent sans relâche. Alors, elles sont aussi copistes, hein, et Marie va se battre pour que le service de copiste des moniales se vende au même prix que le service des moines hommes, et non au quart du prix. Donc, vous voyez, c'est encore c'était le même souci qu'on a encore parfois aujourd'hui. Bon, elles vont construire aussi un labyrinthe avec des plantes pour pas que l'abbaye soit envahie trop vite. On y suit les relations difficiles entre Marie et Aliénor d'Aquitaine, qui eut aussi une vie assez romanesque et qui fit 15 ans de prison, ce qui réjouit Marie. Alors moi, j'ai un petit reproche à faire à ce livre, c'est qu'il ne donne pas assez de place à la création poétique lors de l'écriture des Léon. Mais en fait, comme Lorraine Groff n'a aucune information là-dessus, donc elle n'a pas pu combler ce manque. Alors par contre, le manque est compensé par vraiment la richesse de cette langue et de sa traductrice. Avec des mots, ils utilisent des mots qu'on n'utilise plus, par exemple « dépendeuse d'andouille ». Coquebert, croque-fredouille, ingénieuresse, bon, c'est des mots du Moyen-Âge qui font du bien et qui collent bien au paysage, à la campagne anglaise et puis à la vie des nonnes.
Alors, tu as un extrait là?
Oui, j'ai un petit extrait. Le premier printemps qu'elle passe à l'abbaye, Marie plante les noyaux des abricots qu'elle a volés dans le jardin de la reine pour les éloigner d'elle. Il lui rappelle tout ce qu'elle a perdu, parce qu'elle est née dans le Maine. Ils auront du mal à grandir, se couvriront de petites feuilles malingres. Elle aura l'impression que sa propre vie est liée à ses arbres. Donc il y a aussi toute la fusion avec la nature.
Alors, on rappelle le titre, l'auteur et l'éditeur?
Matrix, Lorraine Groff, aux éditions de l'Olivier.
D'accord. Une édition récente, hein, cette
année.
Oui.
Il vient de sortir, là,
d'accord,
en 2023.
2023. Alors, oui. Christine de Pizan?
Alors, on saute au XVe siècle. Ah. Les 100 ballades d'amants et de dames de Christine de Pizan viennent
alors,
de paraître.
Alors, je signale que ballade avec deux L. Hein,
oui.
Car ce ne sont pas les ballades en région parisienne.
Ce ne sont pas des randonnées. Hein,
voilà.
Oui. Bon, enfin, c'est des randonnées amoureuses quand voilà. même. Mais ouais. Oui. Alors, pareil, comme c'est en ancien français, c'est Bertrand Rouziès-Léonardi qui a traduit. Enfin, c'est bien parce qu'il y a la version initiale et la version traduite aux éditions L'Hurlure. Alors, rappelons que Christine de Pizan est née en 1364 à Venise, qu'elle n'est pas française au départ, hein, mais que, à l'époque, tout le monde écrivait en français, et elle est considérée comme la première femme de lettres écrivant en français et ayant vécu de sa plume, contrairement à Marie de France, qui n'a pas vécu de sa plume. Hein. Alors, elle a publié de la poésie dans ce recueil, mais aussi une vingtaine d'ouvrages de sciences, de politique et de philosophie, de religion et même de guerre. Elle s'engagea pour la défense des femmes et s'opposa à Jean de Mingue dans son roman de la Rose. Et Simone de Beauvoir et les États-Unis l'adorent parce que donc elle a défendu pour la première fois les femmes. Donc dans son essai Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir dit pour la première fois on voit une femme prendre la plume pour défendre son sexe. Alors revenons au recueil paru initialement en 1406 composé de 100 ballades. Alors, la ballade est écrite en décasyllabes, mais le traducteur nous l'a fait en alexandrin pour que ça colle mieux à une certaine modernité. Alors, c'est pas tout à fait de la poésie courtoise, parce que dans la poésie courtoise, l'amour est vécu de loin. Là, c'est vraiment un amour incarné dans une vie concrète, hein, dès le réveil de l'amour jusqu'à son épuisement. Donc il y a une alternance entre le désir et le manque, entre l'amant et l'amoureuse. Il y a des dialogues savoureux entre amants. Je vous lis un petit dialogue. Hein. « Mon doux ami, venez me parler. Très volontiers, madame, avec joie. Parlez-moi sans rien me cacher. Que vous dirais-je, ma chère et douce dame? Si votre cœur est greffé en moi? Oui, entièrement, madame. N'en doutez pas. En vérité, le mien est en vous également. Grand merci, belle. Aimons-nous bien. » Donc voilà, alors c'est assez savoureux et... Je voulais aussi
c'est
un dernier
courtois,
extrait.
Hein. C'est oui, oui. Quand même, hein. C'est... Mais c'est l'amoureux sentiment. Ouais, c'est...
Oui, ouais. Et ils se voient tous les jours. Enfin, ils sont proches. C'est parce que l'amour courtois, c'est souvent le chevalier qui est parti. Je vous lis un autre extrait. Je suis née sous une bonne étoile, puisqu'amour m'a conduite et donnée au meilleur qu'on pût choisir. Je ne pourrais décrire ni totalement dire ses grandes qualités. Il n'a pas son pareil et veut en toute occasion ce que je veux. Et à qui plaît sans conteste ce que je veux, j'ai décidé de l'aimer. Donc ce que je veux revient souvent, ce qui me permet d'annoncer la séance du 8 mars qui sera consacrée à Colette, qui disait « je veux faire ce que je veux ». Donc on est dans la continuité. Hein. Autre femme célébrée par Simone de Beauvoir.
Alors quand Dominique parle de la séance, on n'est pas au cinéma, c'est l'émission du 8 mars.
C'est l'émission, hein. Oui.
Alors,
voilà.
Marguerite de France, parce qu'il est 25.
Oui, on saute au 16e siècle. Ouais. Alors c'est la grande protectrice des poètes de la Pléiade, c'est la fille de François Ier. Elle a toujours défendu les poètes Ronsard, Dubellé, hein. Et vraiment, donc on fête le 450e anniversaire de sa naissance. Elle a écrit, mais on ne retrouve plus ses poèmes. Mais bon, des chercheurs sont sur la piste, hein, donc peut-être qu'on aura un jour des écrits de Marguerite de France. Mais ce qui compte, c'est que c'était la protectrice des poètes. Voilà.
Et donc, il y a quand même une citation, là, de...
Oui, oui, alors,
de Roger Père. Qui est ce monsieur?
Alors, c'est un intellectuel, hein, qui a beaucoup écrit sur cette période-là. Alors, il dit « Peu de figures apparaissent dans l'histoire accompagnées d'un aussi beau cortège d'amitié illustre, surtout de la part des poètes qu'elle appréciait et inspirait si bien. »
D'accord. Donc, voilà. Alors, nous n'avons pas de livre de Marguerite de France.
Non.
Mais nous avons Christine de Pisan, donc publiée aux éditions L'Hurlure. Et ce qui est original, c'est d'avoir le vieux français, le français ancien en tout cas, sur la page de droite. Et puis
de gauche et la page de droite, la traduction.
D'accord. Très bien, très bien, très bien. Bon, alors, tu as un petit peu annoncé ta prochaine chronique, donc on va parler de qui, de quoi ?
De Colette.
Voilà, Cahiers de Lerne que tu vas nous présenter.
Je présenterai les articles surtout consacrés à la littérature, parce que bon, il y a tellement de choses à dire sur Colette qu'on ne pourra pas tout aborder.
On va surtout inviter nos auditeurs et nos auditrices à lire ce cahier de Lerne qui est un monument.
Hein? Oui.
Et merci, et puis nous retrouvons donc dans 15 jours, le 8 mars. Allez, au revoir.
Allez, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, comme nous le disions, le mercredi 8 mars 2023, nous aurons une émission consacrée à de nombreux livres écrit par des femmes, et nous recevrons Isabelle Pivert, fondatrice et directrice des éditions du Sextant. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. À bientôt.
Jatte, avec la peur qui tend la patte. ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale. Avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu